Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Mes grands-parents, mes parents et moi-même sommes nés sur cette terre. Nous avons voté aux élections. Je suis indienne, mais le gouvernement ne me reconnaît plus cette identité.
Imaginez que subitement vous soyez déchu de votre nationalité parce que la province où vous vivez a décidé de tout vérifier en se basant sur des critères assez spéciaux. C'est ce qui se passe en Inde, dans la province de l'Assam. C'est près du Bangladesh et c'est l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir. Sous les radars et Amélie Perry avec des nouvelles du référendum, donc sur les cornes de vache en Suisse. Nous enverrons aussi Elon Musk sur Mars lui-même et vous découvrirez aussi un record chinois fort inutile ma foi. 18h50, Le Monde selon Trump, saison 2 et Grégory Phillips qui est à Charlottesville pour le procès très emblématique d'un néo-nazi accusé d'avoir foncé sur la foule. C'était l'année dernière pendant cet épisode si dramatique. 18h55, Le Monde à l'envers et Cyril Sauvageau. Ce soir, la taxe poids lourd abandonnée chez nous existe dans beaucoup de pays dans le monde. Pourquoi ça marche là-bas et ça ne marche pas ici? On essaiera une petite étude comparative. Avant cela, direction le Royaume-Uni, le Brexit, un pas après l'autre, mais ce sont des pas très lents. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Dernière fois qu'on a parlé Brexit ici, c'était il n'y a pas si longtemps. Je me souviens très bien que la question c'était alors ça y est, l'Europe à 27, c'est fait. Point d'interrogation, on peut enlever le point d'interrogation ce soir. Enfin, en tout cas, si tout va bien, si je puis dire. L'exercice très compliqué maintenant pour Theresa May, convaincre les parlementaires. Ça commence officiellement, ça a commencé cet après-midi. Le vote aura lieu le 10, le 11, le 12, c'est même pas clair encore exactement. De manière très simple, quasi expéditive, en tout cas, l'Europe a entériné le départ du Royaume-Uni. C'est ce qui a rendu un peu tout le monde un peu chafouin, au fond, parce que ça s'est terminé assez vite. Bonsoir Pauline Schnapper.
Bonsoir.
Professeur des civilisations britanniques à la Sorbonne Nouvelle. On joindra Antoine Gignot aussi dans un instant, qui a lu la presse pour nous. Et c'est vrai que ça s'est fait finalement de manière assez expéditive. Et tout le monde sort de là avec un blues terrible, au fond.
Oh bah, ce n'est une bonne nouvelle pour personne. Mmh. Alors la seule nuance, c'est que c'est pas fait en réalité. Mmh. Tout peut encore arriver, mais enfin, disons que oui, il y a quand même une étape qui a été franchie. Il sera difficile de reculer maintenant, mais encore une fois, il faut rester prudent.
Alors, on va parler de l'état des forces en présence, notamment à la Chambre des communes, voir ce qui se passera dans maintenant une quinzaine de jours. Mais qu'est-ce qu'elle a à vendre au fond, Pauline Schnapper, Theresa May, quand on y songe pendant toute la période de transition, en tout cas, elle est soumise aux mêmes règles. Donc, en gros, elle sort, mais elle est soumise aux mêmes règles que celle de l'Union. L'Union douanière est toujours là, la Cour de justice est toujours là, les négociations bilatérales deviennent impossibles. C'est pas simple l'exercice de conviction qu'elle a à faire. Hein.
Non, alors, la seule chose c'est que ça, ce n'était pas nouveau. Si vous voulez. C'était attendu et ça avait été à peu près accepté par les Brexiteurs, l'idée qu'il y aurait une période de transition. Ils voulaient qu'elle soit courte, mais on sait déjà depuis décembre 2017, depuis presque un an, que pendant un peu moins de deux ans, les Britanniques vont rester de fait dans l'Union européenne, vont devoir accepter, y compris les choses dont ils ne veulent pas, comme de continuer à payer
exactement
dans le budget et la libre circulation des personnes, ne pas pouvoir encore commencer à négocier des traités de libre-échange avec des pays tiers, sans avoir plus leur place autour de la table, c'est-à-dire ils vont pendant deux ans,
c'est-à-dire perdant
oui,
intégralement.
C'est ça. Mais bon, l'idée des Brexiteurs, c'est que c'est, comme son nom l'indique, une période courte de transition et qu'après le monde nouveau va s'ouvrir et que tout sera merveilleux. Ce qui n'est pas clair du tout, c'est que même en deux ans, il est très peu vraisemblable qu'un accord définitif sur la suite, qui est maintenant ce qui s'ouvre aujourd'hui, puisse être trouvé. Donc cette période de transition pourrait bien en réalité se poursuivre au-delà de décembre 2020.
Ce qui est prévu sur une année, mais c'est prévu combien de temps au fond? Parce qu'on peut ne pas être d'accord pendant combien de temps?
Il n'y a rien de bien clair, puisque... Alors encore une fois, il faut bien revenir au fait que on est un peu comme en 2005, au moment de la signature du traité constitutionnel. On se disait, bon bah ça y est, on a une constitution. Et puis après, il y a eu les ratifications et tout s'est écroulé. Il ne faut pas oublier que peut-être que dans 15 jours, tout ce qu'on vient... ce sur quoi on vient de se mettre d'accord hier peut tomber à l'eau dans 15 jours s'il n'y a pas de ratification par le Parlement de Westminster. Donc on est quand même en l'air là.
Alors on va venir évidemment à cette ratification. Il y a eu un petit obstacle sur la route avec les garanties demandées par l'Espagne au sujet de Gibraltar. Est-ce que ça a été réglé ou est-ce que ça aussi, parce qu'on a beaucoup dit au moins les 27 sont tous ensemble. Alors est-ce qu'il risque d'y avoir un peu de...
Oui, il y a eu une petite inquiétude.
D'inquiétude.
Les Espagnols ont ont évidemment profité de la situation pour obtenir les garanties qu'ils souhaitaient sur un droit de veto sur le statut futur de Gibraltar. Et sans surprise, Theresa May a été obligée de céder là-dessus, comme elle a cédé sur beaucoup de choses avant. Donc en principe, c'est réglé ça.
Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Avant d'en venir justement à ce qui va se passer aux communes, ce qui va se passer au Parlement, qui pour l'instant a prévu de voter quoi et ce qui donc risque d'advenir de cet accord, je voudrais que vous lisiez, enfin vous avez lu la presse pour nous, Antoine, ce qui revient, si j'en crois ce que vous nous racontez, c'est que le plus dur reste à faire en fait.
Absolument, oui. C'est même le titre d'ailleurs, en grosses lettres noires du Daily Mirror, avec cette explication, Theresa May n'a pas le choix si elle veut que les députés soutiennent son accord et si elle veut aussi sauver sa peau, ce qui l'attend, c'est une gigantesque bataille. La preuve en dessin sur un graphique, ça c'est à voir dans le Daily Telegraph. Il additionne tous les conservateurs qui risquent de voter contre le texte, une dizaine de députés anti-Brexit qui s'ajoutent aux 80 députés conservateurs pro-Brexit mais qui sont mécontents de l'accord négocié entre Londres et Bruxelles. Impossible en fait en l'état d'imaginer que le texte passe. Le danger est réel. Le ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, le dit dans le Daily Mail. En cas d'échec, le gouvernement pourrait s'effondrer. Le Sun parle de tentative désespérée de Theresa May pour convaincre. Pendant ce temps-là, l'Europe rigole et Emmanuel Macron jubile.
Et en face, face au chaos annoncé, Antoine, il y a ceux qui se présentent du coup en homme providentiel.
Ouais, et là, toute la liste des solutions alternatives est dans le Financial Times. Andrea Leadsom, leader de la Chambre des communes, explore les moyens de gérer un Brexit sans accord. Il faudrait signer de nouveaux partenariats avec Bruxelles. Tout cela prendrait du temps. Il y a aussi l'option norvégienne avec le Royaume-Uni qui resterait dans l'espace économique européen, évoqué au gouvernement par Michael Gove et Amber Rudd. Et puis, il y a surtout, et là, je vous conseille d'aller là, lire cette tribune de Boris Johnson dans le Télégraphe. Avec la mesure et la tempérance qui caractérisent l'ancien ministre des Affaires étrangères, il réclame un accord du type canadien, mais surtout plus de fermeté. Jusqu'ici, dit-il, nous nous sommes pliés à la volonté de l'Europe, nous nous sommes pliés maintes et maintes fois comme des serviettes de table. Dernière option évoquée dans la plupart des journaux. Une alliance entre une partie des conservateurs et une partie des travaillistes. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Il pourrait y avoir dans les semaines qui viennent des tractations et un débat télévisé entre Theresa May et Jeremy Corbyn, le chef de file de la gauche. Le Financial Times qui conclut avec ces mots, le programme télé de Noël, c'est vraiment la déprime.
Ah ben écoutez, vous nous le ferez suivre quand même, Antoine, désolé de cette grande déprime qui vous attend. Pauline Schnapper, quand on voit désespérément les alternatives, qu'on parle d'alternatives en fait, est-ce que tout ça est bien sérieux? Au fond, est-ce qu'il y a vraiment une alternative au fond?
On n'en sait rien, je crois que c'est ça la réponse en un mot. Antoine Gignot a très bien résumé, en gros, autant qu'on puisse voir aujourd'hui, les trois types de possibilités. Si Theresa May n'obtient pas de majorité, selon toute vraisemblance, elle sera obligée de démissionner. Donc le gouvernement tombe.
Alors attendez, une chose à la fois, si elle tombe, qu'est-ce qui se passe? On recommence?
Alors normalement, il y a simplement un nouveau leader. Simplement, est-ce qu'il y aura un consensus autour d'un nouveau leader conservateur?
Mais est-ce qu'il est tenu
simplement de remplacer par quelqu'un d'autre?
Mais dans ces cas-là, est-ce qu'il est tenu par ce qui a été signé hier à Bruxelles, par exemple? Voilà, je vous vois lever les bras au ciel.
Je n'en sais rien. En principe, oui. Je veux dire, ça a été signé par le gouvernement britannique. Ça a une valeur légale. Alors, mais politiquement, tout est possible.
Alors ça, c'était donc...
Donc ça, c'était la première, okay, première chose.
Donc deuxième.
Deuxième chose. Quelles sont à ce moment-là les, en gros, trois possibilités? La première, pas d'accord. On sort dans le chaos le 29 mars. Personne n'en veut en théorie, mais c'est un peu comme la guerre de 14. Personne n'en voulait, mais on pourrait bien quand même finir
par... Comparaison intéressante.
Oui, elle va peut-être un petit peu loin, mais enfin, c'est pour... donc ça, c'est la première possibilité. Ça serait catastrophique pour l'économie britannique. La deuxième possibilité, c'est celle qui est envisagée par certains, en particulier par certains travaillistes, qui serait en gros de réouvrir des négociations et de prolonger l'article 50, c'est-à-dire de ne pas sortir le 29 mars, mais de demander quelques mois de plus et de repartir dans une négociation. Mais
ça ferait voter éventuellement si les travaillistes obtiennent ça.
Alors,
parce que la date, elle tombe à l'instant. Ce sera le 11 décembre,
oui,
le vote aux communes. Si les travaillistes obtiennent de pouvoir reculer un peu, est-ce que vous pensez que, dans le temps, est-ce que vous pensez qu'ils pourraient voter oui?
Alors, ils ne voteraient pas oui pour cet accord-là, mais leur idée, et l'idée d'un certain nombre de modérés, disons, des deux camps, ça serait de se diriger plus vers un soft Brexit, c'est-à-dire de négocier, de rester dans le marché unique, au moins pour un certain temps, le temps de négocier autre chose. Ça, je dirais, c'est le deuxième possibilités, de grandes possibilités. Et puis la troisième, bien sûr, c'est un second référendum. Ça peut pas être totalement exclu, même si ça me paraît pas l'hypothèse la plus vraisemblable.
C'est l'hypothèse Tony Blair, notamment.
C'est l'hypothèse Tony Blair, entre autres.
Mais
ça se heurte à une série de difficultés, à la fois, j'allais dire, techniques, c'est-à-dire qu'il faut plusieurs mois pour organiser un référendum, quel type de questions on pose, quid de si on a la même réponse qu'il y a deux ans, ou quid de si on a 52-48, mais dans l'autre sens, quelle légitimité pour un tel référendum? Et des tas de questions politiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut demander aux gens de revoter au bout de deux ans sans donner l'impression qu'on leur demande de voter indéfiniment jusqu'à ce que le résultat soit le bon.
Conforme à ce dont on a envie.
Donc,
finalement, c'est
bien comme ça que ce sera... Beaucoup de problèmes politiques, c'est pour ça que c'est quand même difficile à imaginer aujourd'hui.
Pauline Schnapper, est-ce qu'on sait là aujourd'hui, effectivement, comme vous le disiez, si on fait le décompte, il y a un certain nombre de conservateurs qui voteront non parce que ça va pas assez loin. Il y a les fameux Irlandais,
DUP, les unionistes.
Les unionistes qui voteront non, il y a les travaillistes qui voteront non. Bon, mais comme on sait effectivement que un non égale le chaos, égale un changement de Theresa May, etc., est-ce qu'on peut imaginer quand même que dans ces 12 jours-là, la question soit est-ce qu'il est vraiment préférable d'aller au chaos ou pas, et que certains changent un peu leur fusil d'épaule? Ça fait partie quand même, j'imagine, de la négo, tout ça.
Oui, et c'est clairement sur quoi compte Theresa May. Ce qu'elle espère, c'est que même des gens qui sont pas contents de l'accord actuel se disent, entre ça et le chaos, tant pis, on va quand même voter pour. C'est le pari qu'elle fait. Pour l'instant, on en est quand même très loin. Hein.
Mais
on
elle le fait avec qui? Est-ce qu'il vaut mieux qu'elle le fasse avec ses conservateurs ou avec les travaillistes?
Elle va essayer aussi bien auprès de ses propres conservateurs que d'une partie des travaillistes. Mais il faut bien voir que pour l'instant, on est tellement loin du compte. Alors évidemment, tout le monde n'a pas dit exactement ce qu'il allait faire, mais il lui manque pour l'instant entre 60 et 80 voix. Mmh. C'est quand même énorme. On ne parle pas d'une demi-douzaine de voix où on achète les députés en leur promettant des choses. Si on parle de 60 à 80 voix qui manquent, en deux semaines, ça paraît quand même très très difficile.
Jérémy Corbyn dit, il l'a dit cet après-midi, le Brexit est un acte d'automutilation nationale. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, le fameux débat qui peut y avoir, qu'évoquait Antoine à l'instant, entre elle et Corbyn, en gros ça sert à quoi?
C'est une bonne question, parce que comme Corbyn n'a pas de vision très très claire de ce qu'il veut lui-même, contrairement à beaucoup des gens autour de lui qui, eux, sont clairement anti-Brexit, lui est très ambigu, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Theresa May serait contente de débattre avec lui, parce que ça lui permettrait de montrer qu'en réalité, les travaillistes n'ont pas vraiment d'alternative non plus au plan qu'elle propose.
Mais au fond, le seul argument, c'est vraiment celui-là, c'est ce qu'a encore redit, nul ne sait ce qui y adviendra si l'accord du Brexit est rejeté, c'est ce qu'elle a dit devant les parlementaires à l'instant. Au fond, son seul argument, c'est de dire on ne sait pas ce qui va se passer, on va dans le mur en klaxonnant, autant ne pas y aller en fait.
Absolument.
Donc il n'y a pas d'argument de fond.
Et elle prétend qu'il n'y a pas d'alternative au projet qu'elle a signé. Et d'une certaine façon, les Européens vont dans le même sens qu'elle, puisqu'ils ont bien dit hier qu'ils n'avaient aucune envie de réouvrir des négociations.
Et au fond, les Européens, vu de notre côté, mais du côté des Anglais aussi, se sont particulièrement bien débrouillés dans cette histoire-là.
Ils se sont plutôt bien débrouillés.
Si on est Brexiteur, Pauline Schnapper, on se souvient des raisons du vote, en fait. On s'en souvient très bien, il y avait cette idée de déclassement qu'on entend dans la plupart des pays d'Europe, y compris chez nous, d'une autre manière. Donc il y a eu ça au moment du vote, mais au fond, moi j'ai l'impression que tous ces sujets qui avaient fait le vote, c'est-à-dire l'immigration, c'est-à-dire le sentiment de déclassement, c'est-à-dire les perceptions d'une Angleterre des plus riches pro-Brexit et puis des autres, on a l'impression que tous ces débats-là, au fond, n'ont absolument pas eu lieu au moment des discussions, alors que c'est bien ça qui avait provoqué le Brexit.
Ah, tout à fait. Et les problèmes de fond, qui n'avaient en réalité pas grand-chose à voir avec l'Europe, que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire les inégalités, les effets de l'austérité depuis des années, les inégalités régionales au sein de l'Angleterre, le problème de l'immigration qui a été absolument crucial. Rien de tout cela n'a été réglé, bien sûr. Pour toutes sortes de raisons, y compris le fait que le gouvernement est totalement obsédé forcément par la question des négociations, et donc il y a plus de politique intérieure aujourd'hui au Royaume-Uni. Il ne se passe rien sur le plan intérieur. Il n'y a pas de loi votée au Parlement. Enfin, c'est incroyable la situation dans laquelle les Britanniques se trouvent aujourd'hui. Et du coup, c'est aussi pour la raison pour laquelle un second référendum serait extrêmement problématique, parce que si les problèmes n'ont pas été résolus, le résultat d'un second référendum risquerait d'être le même que celui du premier.
Mais du coup, que dit l'opinion, en fait? L'opinion britannique, est-ce qu'elle leur dit arrêtez les frais maintenant, ou est-ce qu'elle dit au Corbyn continuer, ou
elle est peu lisible en réalité en ce moment. parce qu'il y a clairement, ce que rapportent les députés qui vont dans leur circonscription le week-end, c'est que les gens en ont assez, qu'ils veulent plus en entendre parler, qu'ils veulent tourner la page, mais en même temps, ils ont pas non plus envie que leur niveau de vie s'écroule après le 29 mars. Il est difficile d'interpréter aujourd'hui l'état de l'opinion publique.
Antoine Gignot, vous vouliez intervenir assez vite, Antoine, mais je vous en prie.
Juste une question à Pauline Stumper. Est-ce que pour vous, l'arrivée de la gauche au pouvoir peut représenter une véritable alternative? Parce que Jeremy Corbyn a clairement mis en avant sa volonté d'organiser des élections législatives si Theresa May laisse la place, bien avant même l'organisation d'un deuxième référendum. Est-ce que les travaillistes sont une alternative et une réponse justement à ces préoccupations sociales?
Alors, c'est clairement en tout cas le pari qu'ils font. Corbyn s'intéresse pas du tout à l'Europe et ne cesse de répéter, il faut s'occuper du Royaume-Uni. Et de ce point de vue-là, il n'a pas tort. Et il a un programme, alors est-ce qu'il est réaliste ou pas, c'est une autre question, mais enfin, il a un programme social, en tout cas, très, très clair. Et sa priorité, c'est de gagner les élections législatives plutôt que d'arrêter le Brexit, ça très clairement. Mais derrière lui, il y a des gens qui sont beaucoup plus actifs sur cette question européenne, pour qui c'est beaucoup plus important et qui souhaitent vraiment, alors à minima, rester dans le marché unique. Ça ferait quand même une grosse différence. Et ou à organiser un second référendum. Donc il faut distinguer là entre le leader et son entourage, je dirais.
Pauline Schnapper, on vous invite pour répondre à des questions. Puis on sort, on a beaucoup plus de questions encore qu'on en avait en entrant. Ils sont terribles, ces Anglais. Merci beaucoup.
Merci
de votre passage dans Un jour dans le monde. On va la rappeler, cette date, le 11 décembre, le fameux vote aux communes, qui sera évidemment une date importante. Et on y sera dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup.
France Inter, Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde, ça se passe en Inde, dans une province du Nord-Est qui s'est mis en tête de recenser sa population vraiment indienne avec des méthodes si controversées que la colère gronde sous les radars. Et Amélie Perrier avec des cornes sur la tête pour les vaches suisses, avec Elon Musk sur Mars lui-même, avec des Chinois aussi et un record qui n'a pas beaucoup de sens. Le Monde selon Trump et Grégory Phillips, gros procès en ce moment à Charlottesville, celui d'un néo-nazi qui a foncé sur la foule. C'était l'année dernière, évidemment, vous vous en souvenez. Et puis, Le Monde à l'envers, c'est vous, Cyril Sauvageau, ce soir. Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
On vient de renoncer à la taxe poids lourd, Cyril, chez nous, et pourtant elle existe bien ailleurs.
Oui, et taxer les poids lourds, c'est possible, il suffit de le vouloir, et on verra comment la France est effectivement très en retard sur ses voisins.
Allez, le tour de la planète continue. Il nous emmène en Belgique, figurez-vous, voici Balthazar. Le titre s'appelle « Entertainment ». Balthazar, Entertainment sur France Inter. Et qui d'autre nous divertit? Eh bien, c'est Amélie Perrier.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention
extra.
sans même avoir à descendre les escaliers avec son boa. Pas que, non, mais là, par exemple, vous allez nous donner le résultat de ce fameux référendum, référendum sur les cornes des vaches en Suisse.
Oui, vous vous rappelez, on en avait parlé ici, sous les radars au début du mois. Eh bien, les Suisses ont voté hier non aux vaches à cornes. Oui, oui, l'initiative lancée par un éleveur écologiste devenu très médiatique, Armin Kapaol, avait réussi à recueillir 100 000 signatures nécessaires pour la tenue du scrutin. En fait, les trois quarts des vaches suisses et un tiers des chèvres n'ont plus leurs cornes, soit parce qu'elles sont issues d'une race sans cornes, soit parce que les éleveurs leur enlèvent juste après la naissance pour éviter les blessures dans les étables. Alors, l'idée du texte était de donner une nouvelle subvention aux agriculteurs qui gardent les cornes de leurs bêtes. Et jusqu'au bout, hier, les pro-cornes ont cru à leur victoire au son des cloches des vaches, oui, évidemment. Mais hier, finalement, la proposition n'a obtenu qu'un peu plus de 45% des suffrages dans la Confédération helvétique. Déception donc d'Armin Kapaol, alémanique, et de son épouse Claudia, en français.
C'est pas un point final. Alors, on va continuer le combat. On va écrire des lettres au Conseil fédéral. Et cette fois, il doit nous prendre au sérieux. Il ne peut pas mettre au tiroir cette lettre. Parce que c'est un petit nom, un très petit nom.
Et le plus étonnant chez nos voisins helvètes, c'est que les villes ont voté davantage en faveur des vaches à cornes que les campagnes.
Les villes veulent des vraies vaches, mais les campagnes trouvent que c'est pas
non,
pratique.
C'est pas pratique. Normal. En tout cas, Armin Kapaol s'est réjoui, je le cite, d'avoir mis les vaches dans le cœur des gens.
C'est là qu'on se rend compte que les vaches, les cornes, ça ne sert à rien pour une vache, en fait. Non, mais sérieusement.
Ça dépend. Bon, bref, autre débat. Okay. La Suisse a voté hier à propos d'autres choses un peu plus sérieuses, allez-y, notamment une proposition de la droite dure et populiste, l'UDC, pour imposer la suprématie de la Constitution suisse sur les traités internationaux. Alors, grosse défaite pour le premier parti du pays. Seul un tiers des votants ont approuvé son texte. Beaucoup d'ONG se sont félicitées du non, au contraire, dont Amnesty International, hors de question pour elle que la Confédération quitte, par exemple, la Convention européenne des droits de l'homme. Autre référendum ce week-end, c'était à Taïwan. Et là, l'île a voté massivement contre également le mariage homosexuel. Pourtant, la Cour constitutionnelle taïwanaise avait légalisé l'an dernier pour la première fois en Asie le mariage pour tous les couples. Le gouvernement promet que la décision de la Cour s'appliquera en faveur des unions homo et donc en dépit du référendum de ce week-end.
En voilà un autre qui se verrait bien vivre ailleurs que sur notre planète.
Elon Musk, le milliardaire fantasque, dans une émission diffusée hier soir sur HBO, la chaîne américaine, un journaliste lui demande: vous avez 47 ans, quelle est la probabilité que vous alliez vous-même sur Mars?
70%.
70%, répond-il. Récemment, on a fait un certain nombre de percées, poursuit-il. Et quand le journaliste lui demande quand cela arrivera, d'ici la fin de sa vie, dit le patron de Tesla et de SpaceX. Alors, ce sera une trappe de sortie pour les riches, s'interroge le journaliste. Non, dit Elon Musk. La probabilité que vous mouriez est bien plus élevée sur Mars que sur la Terre. Ce sera dur, il y a de grandes chances de mourir dans cette petite boîte au plus profond de l'espace. On pense que vous pourrez revenir, mais on n'en est pas sûr. Vous trouvez vraiment que ça ressemble à une cachette pour les riches? Mais vous irez sans hésiter, insiste le journaliste. Oui, c'est comme grimper des montagnes, répond Elon Musk. Des gens meurent tout le temps sur l'Everest, mais ils le font pour le défi. Voilà les mots d'un idéaliste qui a les moyens de financer de ses rêves ou de ses délires, hein, c'est selon. J'ajoute simplement qu'après une autre interview où Elon Musk avait fumé un joint, vous en souvenez peut-être, face caméra, la NASA a ouvert une enquête sur l'usage des drogues à SpaceX, son prestataire.
En tout cas, j'allais dire qu'il est un petit peu déprimé, visiblement, Monsieur Musk.
Il a l'air.
Un autre défi un peu fou, même totalement fou, ça se passe en Chine.
Et je vous laisse deviner de quoi il s'agit. Ah, vous n'avez pas l'image.
Bah non, bah oui.
Mais vous avez le son.
Ça s'appelle la radio.
C'est le record du monde battu par un adolescent de Shanghai, record à la corde à sauter. Wang Junkai a réussi 136 sauts en 30 secondes dans une compétition à double corde. On salue quand même les deux camarades, hein, qui font tourner les cordes très très vite. Le garçon a ainsi sauté plus de 9 fois par seconde. Nous, on s'incline. Hein,
mais totalement. Je ne veux pas sauter à la corde depuis la corde d'école, vous me direz. Mais j'étais assez douée, je dois dire.
Ah, ouais, ça m'étonne pas.
Je faisais ça, c'est bien.
Ça m'étonne.
Allez,
pas.
Vous revenez demain quand même.
Promis.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
C'est en Inde que nous emmène ce soir l'Escale Reportage d'un jour dans le monde. En Inde, dans le nord-est du pays, là où le Bangladesh est enclavé dans l'Inde. Imaginez que depuis 3 ans, la province de l'Assam demande à ses 33 millions d'habitants de prouver qu'ils sont indiens depuis plus de 47 ans, donc la date à laquelle le Bangladesh a cessé d'être le Pakistan oriental pour devenir le Bangladesh qu'il est aujourd'hui. L'initiative, elle vient des nationalistes qui parlent d'infiltration bengali qui change la culture de l'Assam, figurez-vous. Bonsoir Sébastien Farcy.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Et bonjour en Inde pour un jour dans le monde. Sébastien, quand on ne peut pas prouver qu'on est indien, on est donc déchu de sa nationalité, mais cet exercice administratif s'est transformé en cauchemar. Plus de 4 millions de personnes ont déjà été exclus de la liste provisoire de citoyens. Ils se sont lancés dans une procédure d'appel très angoissante. Certains craignent même que ces indésirables de l'Assam subissent un sort similaire à celui des Rohingyas en Birmanie. On écoute votre reportage.
Imdadul Islam n'arrive toujours pas à comprendre comment cela est possible. Le 31 juillet dernier, le gouvernement de l'Assam a publié la liste provisoire des citoyens indiens de la région. Son nom y était bien, mais pas celui de ses 2 sœurs et de sa mère. Elles sont considérées comme des immigrées clandestines. Imdadul sort délicatement une feuille d'une pochette en plastique.
Ceci est ma carte d'admission aux examens de fin du secondaire. C'est cela qui m'a permis d'être reconnu comme indien, car il y a écrit le nom de mon père dessus. Mais nous n'avons pas pu prouver cette relation de parenté pour mes 2 sœurs et ma mère, car elles ne sont pas allées à l'école et n'ont pas d'autres pièces d'identité qui mentionnent le nom du père.
Sa famille, dit-il, vit ici depuis les années 30, dans ce village de Pum Shafakamar, situé à environ 100 km de la capitale de l'État. Sa mère, Adjara Khatun, âgée de 62 ans, se sent déchirée.
Mes grands-parents, mes parents et moi-même sommes nés sur cette terre. Nous avons voté aux élections, mais soudainement, nous sommes considérés comme des Bangladaises. Je suis indienne, mais le gouvernement ne me reconnaît plus cette identité. Je me sens orpheline.
Dans ce village musulman, plus des 2/3 des familles ont ainsi été divisées. Une partie est considérée comme indienne, l'autre, généralement les femmes, sont exclues de cette fameuse liste de citoyenneté et soupçonnées d'être des immigrés clandestins bangladais. L'Assam compte en effet une longue et poreuse frontière avec le Bangladesh. Et depuis l'indépendance de ce pays en 1971, les nationalistes régionaux affirment que des millions de Bangladais ont réussi à entrer dans le pays et obtenir illégalement la citoyenneté indienne. Le recensement actuel oblige donc tous les habitants à prouver qu'ils étaient bien indiens avant cette indépendance de 1971. Samujal Bhattacharya est le secrétaire général du syndicat des étudiants de l'Assam qui réclame ce recensement depuis 40 ans.
L'ancien ministre de l'Intérieur de l'Inde, Indrajit Gupta, a dit à la fin des années 90 qu'il y avait 4 millions de Bangladais résidant en Assam. Or, les déclarations des ministres sont basées sur des chiffres vérifiés. Ces étrangers s'accaparent les terres agricoles. La démographie de l'Assam a changé et cela met en danger notre langue, notre culture et notre identité. Nous ne voulons pas devenir des citoyens de seconde catégorie.
Ce chiffre de 4 millions de clandestins est régulièrement cité, mais il ne peut être vérifié car ces immigrés ne sont par définition pas recensés par les autorités. C'est donc une estimation qui circule depuis 40 ans et qui nourrit la crainte des Assamais envers les Bangladais et surtout envers les musulmans. Car oui, la population musulmane de l'Assam a augmenté pendant cette période. Elle est passée de 24 à 34% de la population régionale. Mais cela ne serait pas dû à l'immigration, mais à la forte croissance démographique des musulmans locaux. C'est l'explication d'Abdul Manan, ancien professeur de statistique à l'université de Guwahati.
Les musulmans qui vivaient à la campagne ces dernières décennies étaient en général illettrés et pauvres, et ils mariaient leurs filles très jeunes, à 13, 14 ou 15 ans. Un an après, elles ont un bébé, et si cet enfant est une fille, cela se répète. Une femme devient donc grand-mère dès l'âge de 30 ans. À cet âge, une femme hindoue éduquée et qui a des ressources, elle, vient à peine d'avoir son premier enfant. »
Beaucoup de ces clandestins bangladais ne seraient donc pas forcément musulmans, mais hindous. Un grand nombre d'hindous bangladais fuient en effet leur pays ces dernières décennies à cause de persécutions religieuses. Mais pour le parti nationaliste hindou du BJP, au pouvoir dans la région et à New Delhi, il n'est pas question d'expulser des hindous, même clandestins. Et le parti a déposé une proposition de loi au Parlement national pour les régulariser. Sheila Ditya Dev est députée régionale du BJP.
Je crois que tous les hindous sont nés en Inde, car c'est le pays d'origine de nos dieux. Et c'est donc leur droit de naissance de revenir en Inde, s'ils ont des problèmes. Nous devrions voter une loi du retour, comme celle qui permet à n'importe quel juif de trouver refuge en Israël. L'Inde n'a pas une loi similaire qui protège ses enfants. Pourquoi ? Car nous sommes laïcs. Parfois, je ressens que les hindous, bien que majoritaires dans le pays, sont en train de se suicider.
4 millions d'Indiens de l'Assam sont donc pour l'instant considérés comme des immigrés clandestins et ils ont jusqu'au 15 décembre prochain pour faire appel. S'ils sont encore déboutés, ils pourront ensuite s'adresser à la justice. Au bout de la procédure, des centaines de milliers d'Indiens pourraient donc être déchus de leur nationalité. Personne ne sait vraiment ce qui leur arrivera, car il sera difficile alors de les expulser, comme l'explique Aman Vadou, avocat spécialisé du droit des étrangers en Assam.
La personne expulsée doit être acceptée par le pays où on l'envoie. Et pour cela, ce pays doit confirmer son adresse sur place. Mais ces personnes n'ont pas d'adresse au Bangladesh. Elles ne pourront donc pas être expulsées. Que leur arrivera-t-il ? Seront-elles déclarées apatrides ? Le chef du gouvernement de l'Assam a déclaré qu'elles ne bénéficieront d'aucun droit fondamental. C'est ce qui est effrayant, car cela veut dire aucun droit à la dignité ou à l'égalité. Le chef du parti du BJP, lui, les a appelés les termites bengalaises. Ces déclarations sont très dangereuses, car elles ont toujours entraîné des génocides.
Certains commencent à comparer cette situation à celle des Rohingyas musulmans. La situation n'est pas encore aussi dramatique, mais le gouvernement indien est là aussi en train de créer des milliers d'apatrides qui croupiront en prison au nom de la lutte pour l'identité nationale et religieuse.
Sébastien Farcy en Inde pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup, direction les États-Unis.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saint-Esse.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Et direction même la Virginie aux États-Unis pour Le Monde selon Trump ce soir. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Fabienne.
Vous êtes à Charlottesville, Grégory, en Virginie. Donc on se souvient de cette ville parce que le premier gros incident de la présidence Trump, ce qui a vraiment servi de marqueur, c'était bien là. En août 2017, on rappelle Grégory rapidement le contexte, une manifestation de néo-nazis, de white supremacistes comme on les appelle, qui voulaient protester contre le déboulonnage d'une statue du général Lee. Une contre manifestation en face, et puis le 12 août, un néo-nazi prend sa voiture, il fonce dans la foule, un mort et 35 blessés.
Oui, et vous vous souvenez, Fabienne, que le 15 août 2017, trois jours après le drame, Donald Trump avait renvoyé dos à dos les néo-nazis et les contre-manifestants qui s'étaient opposés ici à Charlottesville autour de la statue du général sudiste qu'il s'agissait effectivement de déboulonner. Et voici ce qu'avait déclaré le président américain lors d'une conférence de presse épique à la Trump Tower à New York.
Je pense que la responsabilité est de deux côtés. Et que dire de l'extrême gauche ? Ils sont venus et ils ont attaqué ceux que vous qualifiez de militants d'extrême droite. Est-ce qu'eux, ils n'ont pas un sentiment de culpabilité ? J'ai condamné plusieurs de ces groupes. Mais tous ces gens réunis à Charlottesville n'étaient pas des néo-nazis, croyez-moi. Ce n'étaient pas tous des suprémacistes blancs. C'étaient aussi des personnes qui venaient manifester contre le déboulonnage de la statue du général Robert E. Lee.
Voilà, et quelques jours plus tard, Trump avait fini par lâcher qu'il n'y avait pas de place en Amérique pour les néo-nazis ou les suprémacistes blancs, mais sa prise de position initiale avait provoqué ici, on s'en souvient, évidemment une très vive polémique, y compris au sein du Parti républicain, et c'est sans doute pour ça que le procès de James Fields qui s'ouvre aujourd'hui à Charlottesville, qui s'est ouvert tout à l'heure, suscite autant d'attention avec pas moins de 200 journalistes accrédités, le quartier du tribunal entièrement bouclé pour suivre le procès de ce jeune homme qui avait donc foncé dans la foule avec sa voiture.
Et une ville, Grégory, qui est encore traumatisée par cette histoire.
Oui, d'ailleurs, pour s'en rendre compte, il suffit d'aller sur la 4e rue qui désormais porte le nom de Heather Heyer, cette jeune femme de 32 ans tuée par la voiture de James Alex Fields. Il y a toujours un mémorial intact des gens qui, hier soir encore, venaient s'y recueillir comme Daniela.
C'était une ville très tranquille. On n'avait jamais de manifestations, pas de nazis ici. Les fascistes ne venaient pas dans cette ville. Je pense que les gens de Charlottesville n'oublieront jamais ce qui s'est passé. Cette jeune femme tuée et toutes les personnes blessées quand cet homme a foncé dans la foule avec sa voiture. On n'oubliera pas ces gens qui manifestaient pacifiquement contre les fascistes.
En fait, Fabienne, il y a comme un malentendu autour de Charlottesville, dont le nom est désormais associé à ce drame, parce qu'il n'y a pas de néo-nazis ici, il n'y a pas de suprémacistes blancs. C'est une petite ville tranquille du centre de la Virginie, berceau de trois présidents américains qui, à la présidentielle de 2016, avaient même voté démocrate à 80%. Mais c'est ici que l'extrême droite américaine s'était donné rendez-vous pour défendre donc cette statue équestre du général sudiste Lee. Statue d'ailleurs qui trône toujours dans un square à deux pas du tribunal.
Un mot, Grégory, sur celui qui est dans le box des accusés, quand même. Qui c'est ce monsieur, qu'est-ce qu'il risque aussi?
Alors, il s'appelle James Alex Fields, il a 21 ans. Ce 12 août 2017, il venait de l'Ohio au volant de sa Dodge grise avec laquelle il a foncé dans la foule. Quelques minutes plus tôt, sur des images vidéo, on le voyait manifester avec un bouclier portant le sigle d'un groupuscule néo-nazi américain. Donc, il n'y a pas beaucoup de doutes sur l'idéologie de l'accusé. Tout à l'heure, à l'ouverture de son procès, il est apparu en costume bleu sombre, petite lunette en écaille. Fields doit répondre de 30 chef d'inculpation, donc crime de haine. Il risque la peine de mort, le procès qui s'est ouvert tout à l'heure à Charlottesville et qui évidemment est très important au regard de la polémique qu'on évoquait tout à l'heure, va durer environ 3 semaines.
Merci beaucoup et vous le suivrez pour nous, pour France Inter et pour Un Jour dans le Monde. Grégory Philips, merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter.
Le monde à l'envers et Cyril Sauvageau. Ce soir, Cyril, la France finira-t-elle par mettre en place cette fameuse vignette poids lourd? Le sujet n'est toujours pas tranché, il a été mis un peu sous le tapis, on va dire, ces derniers temps, parce qu'on connaît le contexte en France qui justifie peut-être cette mise sous le tapis. L'idée, en tout cas, n'est pas dans la loi mobilité qui a été présentée, dont on parlera d'ailleurs dans un instant dans le téléphone sonne. Mais Cyril, beaucoup de nos voisins européens, pourtant, ont franchi le pas.
Ah oui, à force de remettre le débat à plus tard, la France fait de plus en plus figure de mauvais élève en Europe. 14 pays européens ont déjà mis en place un système de taxation des camions, que ce soit sous forme de vignettes ou de redevances. Et parmi nos voisins, la Suisse fait figure de pionnière. Depuis 2001, tous les poids lourds de plus de 3,5 tonnes sont taxés en fonction du nombre de kilomètres parcourus, de leur poids total et de leurs émissions. Les effets bénéfiques de ce système sont bien visibles. 100 000 tonnes de CO2 en moins, un trafic moins dense et une manne financière, plus d'un milliard d'euros par an, qui a permis l'entretien des infrastructures et le développement du réseau ferroviaire. Un modèle vertueux, très souvent pris en exemple par les défenseurs de la taxe poids lourd, pour les ONG comme France Nature Environnement. Tout cela est une question de volonté politique. Et la volonté politique, eh bien, c'est ce qui manque à la France, encore marquée par le fiasco de l'écotaxe en 2013.
La Suisse n'est pas la France. Ce système peut-il fonctionner, Cyril, dans une ville de taille comparable de taille comparable à l'Hexagone?
Mais oui, en Allemagne, par exemple, autre grand pays de transit comme la France. L'Allemagne a introduit une écotaxe en 2005, la LKW Maut, avec son système de repérage par satellite. Les débuts ont été plutôt hésitants, mais au bout de 13 ans, le bilan est positif, même si le réseau routier allemand reste très encombré. L'État et les lenders empochent 4 milliards d'euros chaque année et la taxe vient d'être généralisée cette année, non plus seulement aux autoroutes et aux routes fédérales, mais aussi aux nationales. Le débat a été un peu moins enflammé outre-Rhin sur ce sujet, peut-être parce que les autoroutes sont gratuites en Allemagne et que ce dispositif a d'abord été vu comme un moyen de faire payer les camions étrangers très nombreux qui traversent le pays. Enfin, pour ne pas trop pénaliser les transporteurs, une prime à la conversion a été mise en place pour les inciter à renouveler leur flotte et à s'équiper de camions moins polluants.
Alors, il y a beaucoup d'autres exemples, la Belgique, la Pologne, l'Autriche, mais cette taxation des poids lourds, elle se fait très différemment selon les pays.
À chacun son dispositif. Certains, comme la Belgique, font payer la distance parcourue. D'autres, comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni, préfèrent taxer le temps passé sur les routes. Quant à l'Autriche, elle a voulu taxer uniquement les camions étrangers avant que son projet ne soit retoqué par l'Europe car jugé discriminatoire. Bref, chaque pays a sa propre lecture de la directive Eurovignette qui date du début des années 2000. Le Parlement européen voudrait pouvoir unifier toutes ces taxes et faire appliquer pleinement le principe d'utilisateur-payeur et de pollueur-payeur sur l'ensemble du réseau européen. L'idée est de favoriser partout une même tarification sur la distance plutôt qu'une vignette, mais on est encore très loin d'un cadre unique pour tous les pays de l'Union. D'autant que la France n'est pas le seul pays à tergiverser. En Espagne, par exemple, la justice a suspendu les projets d'écotaxes et les transporteurs sont vent debout. Quant à l'Italie, eh bien, elle n'a pas encore franchi le pas, même si la catastrophe du pont de Gênes cet été a mis en lumière l'état désastreux des routes du pays et le manque cruel d'investissement dans les infrastructures.
Cyril Sauvageau, Le Monde à l'envers, merci beaucoup, à bientôt. Vous m'offrez d'ailleurs une transition en or, puisque la loi mobilité, tiens justement, on va en parler dans le téléphone sonne, et notamment avec Elisabeth Borne. C'est dans la suite, bien sûr, Sébastien Paour sera là précédemment pour le journal. Merci de nous écouter, surtout ne changez rien.